Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les bêtises du petit Nicolas est un recueil de récits courts humoristiques écrit par René Goscinny et illustré par Jean-Jacques Sampé. Il appartient à l'univers du petit Nicolas, où un écolier raconte à la première personne ses journées avec ses camarades, ses parents et les figures d'autorité qui encadrent son existence. Le volume ne suit pas une intrigue continue, il réunit des épisodes autonomes situés notamment à la maison, à l'école, en retenue, au cirque ou à la fête foraine. Chaque aventure part d'une idée que Nicolas et sa bande jugent raisonnable, amusante ou indispensable, mais que les adultes interprètent comme une sottise. Le livre vise ainsi moins à donner des leçons qu'à rendre sensible la logique propre de l'enfance. La prose de Goscinny, volontairement orale et directe, produit un décalage comique constant, tandis que les dessins de Sampé prolongent avec légèreté l'observation des gestes, des groupes et des malentendus quotidiens. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la voix de Nicolas transforme les malentendus en moteur comique. Le choix de la narration à la première personne est la principale force du recueil. Nicolas ne décrit pas le monde comme un adulte qui se souviendrait de son enfance, il le rapporte selon ses propres priorités, avec une assurance souvent disproportionnée et une compréhension partielle des règles qui l'entourent. Cette restriction du point de vue crée le comique. Le lecteur perçoit les conséquences probables d'une initiative avant le narrateur, ou comprend que les propos des adultes ont un sens plus complexe que celui retenu par l'enfant. Nicolas ne ment pas nécessairement. Il organise les faits selon une logique immédiate, où gagner un jeu, éviter une punition, défendre un camarade ou conserver un objet semblent des objectifs parfaitement sérieux. Le style simple ne doit donc pas être pris pour une simplification de l'observation. Il permet au contraire de faire apparaître simultanément deux lectures d'une même scène, celle spontanée des enfants et celle plus ironique du lecteur adulte. Les phrases brèves, les enchaînements rapides et les justifications naïves donnent au récit son rythme. Cette voix explique aussi la tendresse du livre. Les enfants ne sont ni idéalisés ni condamnés, car leurs erreurs naissent surtout de leur énergie, de leur imagination et de leur incapacité provisoire à mesurer toutes les implications de leurs actes. Deuxièmement, la bande de camarades fait de la bêtise une expérience collective. Les aventures ne reposent pas seulement sur Nicolas, mais sur une petite communauté d'écoliers au tempérament très contrasté. Alceste, souvent préoccupé par la nourriture, Geoffroy, associé à son aisance matérielle, Eudes. Volontiers bagarreur, Rufus et son sifflet, liés au métier de policier de son père, ou encore Agnan, élève modèle, constituent des silhouettes immédiatement reconnaissables. Ces traits volontairement accentués ne réduisent pas les personnages à de simples étiquettes. Ils rendent lisibles les alliances, rivalités et négociations qui structurent les jeux d'enfants. Dans ce monde, une dispute peut éclater pour une place, un rôle ou un objet, puis être oublié dès qu'une nouvelle activité rassemble le groupe. La cohésion demeure fragile, mais réelle. Les bêtises deviennent alors des entreprises collectives, chacun apporte une idée, une objection, une vantardise ou une maladresse, et l'action échappe rapidement à tout contrôle. Goscinny observe avec précision une sociabilité où l'amitié se manifeste moins par de grandes déclarations que par la participation au jeu. La défense momentanée d'un copain et le désir de ne pas être exclu. Le recueil montre ainsi que l'apprentissage social passe aussi par le conflit, la compétition et la réconciliation. L'humour naît de cette énergie de groupe, sans faire des versions miniatures et sages des adultes. Troisièmement, l'école et la famille révèlent une satire douce du monde adulte dans les bêtises du petit Nicolas. Les adultes incarnent des règles nécessaires mais fréquemment opaques pour les enfants. L'institutrice, le surveillant, le directeur et le bouillon à l'école, comme les parents. Les voisins ou le patron du père, dans la sphère familiale, interviennent souvent lorsqu'un désordre a déjà pris de l'ampleur. Leur autorité est vue depuis le bas. Nicolas remarque leur colère, leurs interdictions, leurs contradictions apparentes et leurs préoccupations, sans toujours en saisir la raison. Cette perspective ne transforme pas les adultes en adversaires cruels. Elle révèle plutôt le caractère parfois théâtral des conventions scolaires, familiales et sociales. Les enfants attachent de l'importance au jeu, à la loyauté du groupe ou à une victoire immédiate, tandis que les adultes parlent de discipline, de bienséance, de travail et de responsabilité. Le décalage produit des scènes comiques, mais il fait aussi apparaître les tensions ordinaires d'une famille et d'une école. Les parents de Nicolas, par exemple, ne sont pas présentés comme des modèles abstraits. Ils ont leurs habitudes, leurs désaccords et leurs fatigues. Le livre conserve ainsi une valeur de chronique sociale, ancrée dans la France de son époque, tout en restant accessible. Sa critique est légère parce qu'elle ne prononce pas de jugement définitif. Elle laisse le lecteur voir l'absurde des situations et reconnaître que chaque génération interprète différemment les mêmes événements. Quatrièmement, des récits brefs construits autour de l'escalade et de la chute, la forme du recueil est particulièrement adaptée à son humour. Chaque récit part généralement d'une situation quotidienne limitée à une sortie, une retenue, une visite, un jeu ou un incident domestique. Nicolas et ses amis y voient l'occasion de s'amuser, de prouver quelque chose ou de résoudre un problème à leur manière. Une décision apparemment anodine entraîne ensuite une succession de complications. L'escalade ne vient pas d'un grand danger, mais de l'accumulation de réactions impulsives, de malentendus et de tentatives de réparation qui aggravent le désordre. Cette construction donne aux histoires une grande lisibilité, notamment pour de jeunes lecteurs, sans les rendre prévisibles au sens faible du terme. La chute repose souvent sur l'écart entre l'explication sincère de Nicolas et le résultat visible pour les adultes. Elle ne fournit pas une morale explicitement formulée. Le personnage apprend parfois peu ou retient une conclusion qui n'est pas exactement celle que tirait un adulte, ce qui préserve l'autonomie de son regard. L'organisation en épisodes permet par ailleurs une lecture fragmentée, un récit peut être lu isolément tout en enrichissant l'image globale de la bande et de son environnement. Cette économie narrative distingue le livre du roman d'apprentissage continu. Goscinny condense dans quelques pages une situation, une dynamique collective et une observation sociale, puis laisse l'illustration ou la dernière réplique prolonger l'effet comique. En dernier lieu, le dialogue entre le texte de Goscinny et le trait de Sempé, les illustrations de Jean-Jacques Sempé ne constituent pas un simple accompagnement décoratif. Elles participent à l'identité du petit Nicolas en ajoutant une seconde manière d'observer les personnages. Là où le texte épouse la parole rapide et subjective de Nicolas. Le dessin peut montrer à disposition d'un groupe la disproportion entre l'ambition des enfants et la banalité d'un lieu ou l'embarras silencieux d'un adulte. Le trait, à la fois léger et expressif, évite de surcharger les scènes. Il capte un mouvement, une posture ou une distance et laisse au lecteur une marge d'interprétation. Cette complémentarité est importante pour comprendre le ton du recueil. Le texte produit le rire par la logique enfantine et par les enchaînements verbaux. L'image souligne l'incongruité concrète de la situation sans imposer une explication. Les dessins donnent aussi une présence sensible aux espaces familiers, comme la classe, la rue, le salon ou la cour de récréation. Ils contribuent à situer les récits dans un imaginaire français reconnaissable, sans enfermer les personnages dans un réalisme pesant. Pour un lecteur débutant, ce dialogue facilite la compréhension des scènes et des émotions. Pour un lecteur adulte, il enrichit la satire discrète des comportements collectifs. L'association de la plume de Goscinny et du regard graphique de Sempé explique donc la singularité durable de ces histoires, à mi-chemin entre littérature jeunesse, chronique de mœurs et humour visuel. En conclusion, Les bêtises du petit Nicolas convient d'abord aux enfants capables de lire seuls des récits courts ou de les écouter en lecture partagée. La structure par épisode permet d'avancer à son rythme, tandis que le vocabulaire vivant et les illustrations soutiennent la compréhension. Le livre peut également intéresser les lecteurs qui apprennent le français, car il offre une langue narrative claire, tout en demandant de prêter attention aux nuances comiques et aux expressions familières. Pour les adultes, il propose une relecture plus complexe derrière les disputes de cours. Les punitions et les projets maladroits, il observe les conventions de l'école, de la famille et de la petite vie sociale avec une ironie sans dureté. Son intérêt pratique est donc aussi pédagogique. Il peut servir à discuter du point de vue, des malentendus, de l'amitié et du rapport aux règles sans imposer un discours moral pesant. Par rapport à de nombreux livres humoristiques pour la jeunesse, il se distingue par sa double adresse très maîtrisée. Les jeunes lecteurs suivent sincèrement les aventures de Nicolas. Les adultes perçoivent ce que sa narration ne mesure pas entièrement. La brièveté des récits ne limite pas cette richesse, car chaque épisode associe une situation identifiable, une dynamique de groupe et une chute précise. L'alliance entre l'écriture de René Goscinny et les dessins de Jean-Jacques Sempé donne enfin au volume une cohérence rare. Il ne se contente pas d'accumuler des farces, il fait de l'enfance un point d'observation lucide, drôle et affectueux du monde des adultes. Si vous souhaitez soutenir René Goscinny, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.